Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, nous lirons ensemble les versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Alors, on va faire un petit résumé en commençant par avoir lu. On va regarder un petit peu une petite partie, quelques passages qu'on a vus la première fois. Mais il y a des gens qui m'avaient demandé, finalement, après ce dimanche, de pouvoir terminer le message. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion de terminer l'année avec ce message qui parle de Jésus et dont Jésus est au centre. À partir du verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho. » Et lorsque Jésus eut en sorti, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas, « Que veux-tu que je fasse? » « Que veux-tu que je te fasse? » C'est personnel avec Jésus. « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et frères et sœurs, ce qui est terrible pour cet aveugle, le fait de recouvrir la vue, ça nous dit que, à quelque part dans sa vie, il a déjà vu cette personne. Il a déjà vu. Que je retrouve la vue, fait que je vois de nouveau. C'est ça le mot grec, s'y recouvrer. Fait que je recouvre la vue. Redonne-moi ce que j'ai perdu. Aussitôt, et Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans Matthieu chapitre 20, au verset 32 et suivant, on nous parle de deux aveugles. C'est le même passage. On nous parle de Bartimée d'un autre. Mais ici, Marc veut cibler vraiment Bartimée. C'est le même événement. Il veut vraiment cibler Bartimée et nous montrer finalement aussi que Dieu, en Jésus-Christ, est encore capable aujourd'hui d'accomplir des miracles dans nos vies. Vous êtes amen à ça. Dieu est capable encore d'accomplir des guérisons dans vos vies. Des guérisons physiques, des guérisons spirituelles, des guérisons émotionnelles, des guérisons de toutes sortes. Dieu est encore capable de vous visiter dans votre souffrance. Dieu est capable de vous visiter dans vos blessures et en Jésus-Christ, de pouvoir vous guérir. On va prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous as laissée. Merci Seigneur. Tu vois les cœurs ici présents ce matin, tu vois toutes ces personnes dans cette salle. Tu connais leurs besoins, Seigneur, et comme l'aveugle Bartimée, Seigneur, je te prie de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Seigneur, que tu puisses non seulement les guérir, mais que tous les gens ici présents ce matin puissent sortir aussi en ayant la certitude que tu les auras visités, mais qu'ils seront aussi également sauvés. Seigneur, merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci pour, Seigneur, les miracles qu'il a accomplis. Merci pour les miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de tous et chacun qui veulent bien s'approcher de lui. Et merci aussi de nous rappeler qu'il ne rejette personne qui vient à lui. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et Seigneur, que ton serviteur puisse s'effacer et qu'on puisse vraiment te laisser toute la place. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme que nous sommes venus entendre ce matin, mais vraiment la parole de Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que nous te demandons et que nous prions. Le peuple de Dieu dit « Amen ». Si notre divin Sauveur n'est plus sur la croix, il demeure toujours le même. Par conséquent, chaque vérité que nous avons apprise sur lui dans le passé demeure aussi valable aujourd'hui, puisqu'il ne change pas. Et le but qu'il poursuivait sur la terre demeure toujours le même, même s'il est monté au ciel. Nous ne devons pas dire « c'est ce que Jésus était, c'est ce que Jésus faisait à son époque » et penser qu'il a changé, car il reste toujours le même, nous dit la parole. Le même aujourd'hui, le même qu'il était hier et le même éternellement. Et ça, c'est rassurant pour les enfants de Dieu. Il traite quelqu'un qui vient à lui aujourd'hui comme il l'a fait avec Bartimée. Et ça, c'est important pour nous. Le fait qu'il ne change pas, qu'il demeure éternellement le même, nous rappelle que non seulement ce qu'il a accompli dans le passé, il veut aussi l'accomplir maintenant, et il veut aussi l'accomplir demain. Il est encore capable, il est encore disposé à le faire. Et ça, c'est parce que c'est un Dieu qui ne change pas. Et gloire à Dieu qu'il ne change pas. Il y a 2000 ans, eh bien, on voit ici avec dans le texte que Bartimée, 2000 ans, a crié à Jésus, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et ce mendiant, ce matin, peut nous enseigner beaucoup de choses sur la façon dont nous devons nous rapprocher de Dieu. On l'avait vu la dernière fois, mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là, donc j'aimerais bien simplement rappeler quelques points. Et de voir un petit peu, d'entrer dans cette histoire de Bartimée, de cette rencontre de Bartimée avec Jésus, et de voir Bartimée qui s'arrête et qui tend l'oreille, les yeux fixés dans la direction, où ce cri de détresse vient être lancé. Parce que c'est vraiment un cri de détresse. Quand on crie « Seigneur, aie pitié de moi », eh bien, ça vient du plus profond de nos tripes, ça vient du plus profond de notre cœur. Et malgré tout le bruit qu'il y avait autour de lui, Jésus va entendre ce cri de détresse venant du fils de Timée, ce mendiant aveugle qui est assis au bord du chemin. Et le passage ici nous montre qu'au verset 48 ici, les gens vont le reprendre. Ils vont essayer de le faire taire. Et le texte nous dit qu'il crie encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! » Et lorsque Bartimée s'y met à crier, personne dans la foule, on avait vu ça la dernière fois, personne dans la foule, la première réaction de la foule, personne ne va l'encourager à continuer. Personne ne va lui dire « Crie plus fort, il ne t'entend pas, prends courage. Crie plus fort, Jésus est le seul qui peut t'aider. » Personne, on essaie de le faire taire. Au lieu de l'aider, on va le réprimander et lui dire de se taire. Verset 48, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Frères et sœurs, j'avais dit la dernière fois qu'on avait vu ce passage ensemble, j'avais dit que lorsque les gens essaient de nous empêcher de parler de Jésus, on doit faire ce que Bartimée a fait. C'est un exemple magnifique qu'il nous donne. On doit crier plus fort. On ne doit pas se taire, on ne doit pas les laisser nous intimider. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Bartimée? Lorsqu'on lui a demandé de se taire, il a crié encore plus fort. Frères et sœurs, je vous ai dit la première fois qu'on a parlé de ce texte, que les gens nous disent n'importe quoi, on leur dit de se taire, ils continuent à parler. Les gens nous parlent d'absurdité, de stupidité, et ils continuent à nous déverser les choses dans nos oreilles. On a de la difficulté à les faire taire. Et nous qui connaissons celui qui donne la paix, celui qui nous remplit, qui remplit notre cœur de joie, celui qui nous donne une espérance éternelle, eh bien, quand les gens nous disent de nous taire, on devrait parler. Et on devrait faire comme Bartimée. Ça, c'est le premier exemple qu'il nous donne. On devrait crier plus fort pour que les gens puissent entendre finalement le nom de celui qui nous a donné la paix. Et à travers notre témoignage aussi, montrer que ce n'est pas une fausse paix comme le monde la donne, que ce n'est pas une fausse joie comme le monde essaie de donner aux gens, mais c'est que c'est une paix et que c'est une joie qui descend du ciel et qui est venue habiter dans nos cœurs. Vous êtes amen à ça? Oui. Bartimée va dire ici, « Jésus, aie pitié de moi. » Frères et sœurs, lorsque nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous, nous pouvons nous attendre à recevoir une bénédiction. Psaume 67, 2, pour ceux qui ont leur Bible. Allez dans le psaume 67, 2. Vous lirez le psaume 67 à la maison. Lorsque vous demandez à Dieu d'avoir pitié de vous, vous pouvez vous attendre à avoir une bénédiction, à recevoir une bénédiction. C'est une promesse de la parole de Dieu. Le problème, vous savez, c'est quoi? On a de la difficulté à s'humilier et de demander à Dieu. « Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. » Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir pitié de nous? « Seigneur, aie compassion de ton enfant. » Dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, aie compassion de ton enfant. Le psalmiste l'avait compris à son époque dans le psaume 67, verset 2. « Aie pitié, pourquoi? » Quelqu'un veut le lire, le verset 2? Eh bien, vous regardez quelques versets plus bas, et là, vous savez ce qui arrive, vous avez les résultats de sa bénédiction. Seigneur, aie pitié de nous et bénis-nous, Seigneur, parce qu'il y a une bénédiction. Dieu fait grâce aux humbles. Et frères et sœurs, toute bénédiction est une grâce de Dieu. Toute bénédiction est une grâce de Dieu. On ne mérite rien. Dieu ne nous doit rien. Et en cette fin d'année, qu'on puisse se rappeler que Dieu, c'est par grâce qu'il nous accorde toutes choses. C'est par grâce qu'il nous accorde la guérison. C'est par grâce qu'il nous accorde son salut. C'est par grâce qu'il nous permet de vivre avec lui pour l'éternité. C'est par grâce qu'il nous accorde le droit de régner avec Christ pour l'éternité. C'est par grâce qu'il nous accorde aussi le droit de s'asseoir sur le trône dans la Nouvelle Jérusalem, nous dit la parole. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous guérir. De nous guérir et de nous délivrer. Il y a une seule chose que Dieu ne prendra jamais en pitié. Il y a une seule chose que Dieu n'aura jamais compassion, frères et sœurs, et c'est le péché. Parce que le péché a fait tellement de dégâts dans le monde. Et il a coûté tellement cher à Dieu. Tellement cher à Dieu. Que jamais, jamais on réussira à avoir la compassion de Dieu si on continue à vivre dans notre péché. Jamais, jamais, jamais. Jamais. On doit crier à Dieu qu'il nous fasse la grâce de nous libérer de nos péchés, de nous libérer de notre esclavage. Mais quand le Seigneur regarde ce que ça a coûté à son Fils, jamais, jamais on réussira à gagner le cœur de Dieu pour qu'il ait compassion d'un seul péché, aussi petit peut-on penser qu'il soit. Jamais, jamais. De toute façon, Dieu ne veut pas nous amener à croire qu'il a compassion de nos péchés. Dieu veut nous amener à nous délivrer de toute forme de péché. Et il nous rend capables en Jésus-Christ d'y arriver. Amen. Mais Dieu est bon, il prend plaisir à exercer sa miséricorde. Alors, dans sa bonté, il a pitié de nous et il nous fait grâce et il nous bénit. Pensez à cet enfant épileptique dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21, pour ceux qui ont leur Bible ce matin. 14 à 21, on n'avait pas vu ça la dernière fois, on n'avait pas eu le temps. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Il est écrit qu'un homme s'approche de Jésus, se met à genoux devant lui et dit « Maître ». Et là, il sort là, deux mots magiques. « Aie pitié. Aie pitié. Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique. Il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria aux gens mauvais et sans foi. « Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Et Jésus parla sévèrement à l'esprit. Mauvais, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus. En particulier, ils lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit, maître? » Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, « Déplace-toi d'ici à là-bas. » Et elle se déplacerait. « Rien ne vous serait impossible. » Et regardez ce que Jésus rajoute. « Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Frères et sœurs, ce mendiant aveugle savait comment prier. Et il nous donne toute une leçon ce matin. Ce mendiant aveugle, il savait comment prier. Frères et sœurs, il avait passé une partie de sa vie à jeûner. C'est quelqu'un qui ne mangeait pas tous les jours. Il avait sûrement passé plusieurs jours sans manger. Les gens étaient sans pitié pour les mendiants à cette époque. À tous les jours, il était assis sur le bord de la route. Et frères et sœurs, la dernière fois, je m'étais assis ici, mais je ne le ferai pas. Mais il était assis à tous les jours. Et frères et sœurs, le mendiant, il ne demandait pas. Le mendiant, il quémandait. Le mendiant, pas qu'il tendait la main. Vous savez, c'était quoi sa prière? Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ouais. Il m'a prié. Il avait la main tendue. Et il nous dit qu'on doit prier le Seigneur. Ayez pitié de moi. Demandez. Le mot mendiant vient du mot demander. Mendez. Mendez, c'est un mendiant qui mendait. De mendiant.
Mais lui, il ne s'est pas demandé, il quémandait. C'est un niveau encore un petit peu plus bas. Il quémandait, il s'humiliait jour après jour. Ayez pitié des pauvres aveugles, ayez pitié des pauvres aveugles. Ouais. Et il ne voyait rien. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à apprendre à prier, à lever les bras vers le ciel. Paul dit dans Timothée, « Je veux qu'en tout lieu les hommes lèvent les mains vers le ciel pour louer, pour adorer le Seigneur. » Et il nous montre ce matin la manière pour louer, la manière pour adorer. Frères et sœurs, ce n'était pas quelqu'un qui exigeait d'avoir de l'argent. Ce n'était pas qui disait « Donnez, donnez un pauvre aveugle en brandissant le poing. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Ouais. » Et à cette époque, frères et sœurs, quand des gens voyaient un aveugle, souvent, à 10 mètres avant, il faisait un grand détour, une grande courbe pour éviter d'entendre ses supplications, pour ne pas être accusé par leur conscience. Et frères et sœurs, nous qui sommes des enfants de Dieu, on a ce privilège extraordinaire de pouvoir quémander à Dieu qui nous accorde ses bénédictions. Ouais. Et pourquoi on doit tendre les bras vers le ciel? Parce que la parole nous dit que quand on est ses enfants, nos noms sont écrits dans les mains de Dieu. Nos noms sont gravés dans ses mains, frères et sœurs. Et Dieu voit non seulement notre cœur, il se rappelle, si nos noms sont écrits dans ses mains, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a fait grâce. Ce mendiant aveugle savait comment prier. Il avait passé une partie de sa vie à jeûner. Et Jésus dit ici à ses disciples, « Pourquoi vous n'avez pas été capable de chasser ce démon? » Simplement parce que vous manquez de foi. Simplement parce que c'est par le jeûne et par la prière qu'on chasse ces choses. Il n'y a aucune méthode humaine, c'est le jeûne et la prière. Et c'est un deuxième enseignement que cet aveugle nous donne ce matin. À tous les jours, il était assis sur le bord de la route et il quémandait en tendant la main et en disant, « Ayez pitié d'un pauvre aveugle. » Et que va-t-il arriver à Bartimée? Pardon, qui va faire fi de toutes les critiques des gens, Jésus sera attentif à la prière de ce désespéré et il acceptera de venir en aide à ce mendiant. Voilà pourquoi Jésus va s'arrêter. Et frères et sœurs, si le Seigneur prend le temps de s'arrêter pour écouter quelqu'un qui n'est même pas son disciple, à combien plus forte raison, nous qui le connaissons et qui l'aimons, nous pouvons avoir l'assurance qu'aucun mendiant aveugle ne peut avoir une plus grande autorité sur lui que celle que nous avons, nous, sur Jésus, parce que nous sommes appelés, parce que Jésus nous appelle ses amis. Et Job dit dans chapitre 6, verset 14, « Celui qui souffrera a droit à la compassion de son ami. » Et frères et sœurs, Jésus nous appelle ses amis. Dans Jean chapitre 15, verset 15, il nous appelle ses amis. Vous êtes ses amis. Je ne vous appelle plus simplement serviteur, mais vous êtes mes amis. Alors, frère, une vérité qui sort de la bouche de Job. Quand on souffre, on a droit à la compassion de Dieu. On a droit à la compassion de Jésus-Christ. Et même quand on ne souffre pas, quand on se sent seul, je parle de souffrance ici, je parle de souffrance, pardon, physique, parce que c'est ce que Job vivait, mais quand c'est des souffrances spirituelles, on a le droit à la compassion de Dieu. Dieu veut nous ramener dans cette joie et dans cette paix qu'il a promis aux enfants de Dieu. Frères et sœurs, peu importe ce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de faire, il n'est jamais trop occupé au point d'ignorer la prière qui vient d'un cœur désespéré et d'un cœur sincère. S'il le faut, il mettra tout de côté, pour entendre tout plaidoyer sérieux. Et aujourd'hui encore, Jésus tend l'oreille et il s'arrête pour entendre le cri du misérable, le cri du pauvre et de celui qui est découragé. Et si nous pouvions, au moment même où je parle, ouvrir les rideaux du ciel, frères et sœurs, ouvrir simplement les rideaux du ciel, nous verrions le Seigneur Jésus-Christ prêt encore maintenant à entendre nos prières, écoutant chacun de nos soupirs, écoutant chaque sujet de prière qui monte vers lui qui provient d'un cœur sincère. Même si Dieu, frères et sœurs, règne sur tout l'univers, il s'arrête pour entendre les lamentations d'un désespéré. Et je ne pense pas que je l'ai dit dans ce sermon, mais le Seigneur, frères et sœurs, vous imaginez quand j'ai dit tantôt qu'il était omniscient, omnipotent, omniprésent, frères et sœurs, qui a un regard sur tout l'univers en même temps, que ce soit en arrière de lui, en avant de lui, qui tient l'univers dans ses mains, qui contrôle toutes choses, qui fait en sorte que tout fonctionne pour que l'équilibre puisse demeurer, eh bien, au moindre cri de ses enfants, au moindre soupir de ses enfants, à la moindre lamentation de ses enfants, il entend. Vous imaginez comment Jésus a pu entendre le cri de cet aveugle, alors qu'il marche sur un chemin poussiéreux, et que les gens devaient crier, « Hey, venez, venez, c'est Jésus! Hey, venez, c'est Jésus! » Il a entendu le cri de détresse de l'aveugle mendiant Bartimée. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. On peut avoir l'assurance que malgré les bruits que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, eh bien, le Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous vivons des choses difficiles, le Seigneur entend nos cris. Vous êtes amen à ça? Même si Jésus prépare le jour de son retour et qu'il s'apprête à célébrer l'avènement et l'instauration de la nouvelle Jérusalem, il est ému, il se réjouit lorsqu'il voit un seul pécheur qui se repent. Il faut se rappeler que les gens, je l'ai dit tantôt, que les gens se manifestaient très peu de respect vis-à-vis un mendiant aveugle. Ils pressaient, hein, je l'ai dit, ils pressaient même le pas lorsqu'ils s'approchaient de lui, sans même le regarder ou l'écouter. Mais celui à qui nous devons toutes choses, frères et sœurs, celui qui a déposé l'espérance de la vie éternelle dans nos cœurs, lui s'est arrêté au cri de ce mendiant. Et chers amis, si le Seigneur Jésus a pris le temps de s'arrêter en entendant les cris de cet aveugle mendiant, de ce mendiant aveugle, il n'y a personne dans cette salle aujourd'hui qui peut oser dire que Jésus ne s'arrêtera pas pour lui, parce que je suis pauvre, parce qu'il est pauvre ou parce qu'il est insignifiant. Personne ne peut dire dans cette salle, Jésus ne s'arrêtera pas pour moi, parce que je suis si insignifiant, si pauvre de moi. J'ai tellement de mauvaises images de moi. Jamais. Imaginez-vous l'image que Bartimée avait de lui. Mais il savait une chose. Il avait entendu dire que Jésus passait. Et il savait qu'avec Jésus qui passait, c'était la dernière chance pour lui qui passait d'être guéri, d'être sauvé. Il a sauté sur cette chance. Il a sauté sur cette opportunité de rencontrer Jésus. Il a crié, crié à plein poumon. Il n'y a personne dans cette salle qui peut oser dire ce matin, Jésus n'a pas le temps de s'intéresser à moi parce que je vis dans la misère. Il n'y a pas une seule personne ici ce matin qui peut être plus pauvre que ce mendiant aveugle de Jéricho. Et pourtant, son cri va amener le Seigneur à s'arrêter alors qu'il marchait en direction du calvaire. Il faut penser que le texte nous dit ici que Jésus quittait la ville de Jéricho pour s'en aller vers Jérusalem. C'était à peu près une semaine avant qu'il soit crucifié. Et une semaine avant qu'il soit crucifié, avec déjà la tension qu'il avait de savoir tout ce qu'il subirait, Jésus, au cri de ce mendiant aveugle, va s'arrêter. Il va entendre. Il va s'arrêter pour prendre un temps avec ce mendiant aveugle. Frères et sœurs, c'est Jésus qui était venu sur la terre pour mourir et chercher ceux qui étaient perdus, a pris le temps de s'arrêter pour un mendiant insignifiant aveugle. À combien plus forte raison, frères et sœurs, aujourd'hui, alors qu'il est dans les cieux, alors qu'il intercède à la droite de Dieu pour ses enfants, à combien plus forte raison le Seigneur va s'arrêter pour vous écouter, pour écouter vos prières. Amen. J'espère que c'est votre certitude ce matin. Souvent, il y a des gens qui ne prient pas, qui ont une vie de prière qui est une faillite, parce qu'ils n'ont pas l'impression que, un, Jésus va les écouter, et deux, que Jésus va répondre à leurs prières. Alors que Jésus prend un plaisir extraordinaire à entendre la voix de son enfant qui intercède devant le trône de la grâce de Dieu et qui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Lorsque ce mendiant a entendu que c'était Jésus qui passait, il s'est mis à crier, il a crié de plus en plus fort et à chaque fois qu'il criait, les gens pouvaient entendre ses paroles, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Chers amis, ces paroles sortaient d'un cœur accablé par la douleur, la tristesse. Elles sortaient de la bouche de quelqu'un qui était désespéré d'avoir vécu pendant toutes ces années dans l'obscurité et qui aspirait un jour à voir la lumière. Les gens vont le reprendre, le faire taire, mais à travers tout ce brouhaha provoqué par la foule, il va crier encore plus fort, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Et c'est le cri sortant directement du cœur de ce mendiant qu'il va interpeller Jésus. Frères et sœurs, sa prière était un cri implorant. Jésus, d'avoir pitié de lui. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Facile à lire. C'est facile d'entendre cette prière sortir de la bouche des mendiants, frères et sœurs. Faites l'expérience à la maison à chaque jour. Commencez votre prière dans l'humilité en disant, Fils de David, Jésus, aie pitié de ton enfant. Ça veut dire quoi? Ça fait grâce à ton enfant qui se présente devant toi. Seigneur, tu connais les guérisons que j'ai besoin dans ma vie, Seigneur. Aie pitié de moi, aie compassion de moi. Seigneur, ton enfant vient devant toi ce matin, Seigneur, aie pitié de lui, Fils de David, Jésus, tu vois que je suis encore coincé avec un péché, Seigneur, qui me tient prisonnier, Seigneur, alors que tu dis que tu rends libre. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je peux vous garantir une chose, Jésus va avoir pitié de vous. Parce que dans sa pitié, Dieu n'a pas de limite. Dans sa compassion, Dieu n'a pas de limite. Parce que s'il y en avait eu, frères et sœurs, il ne serait jamais resté sur la croix. Jamais, jamais, jamais. La parole nous dit qu'il aurait fait venir des légions d'anges pour venir régler le cas de ses créatures. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et ceux qui étaient perdus, ils ont crucifié celui qui était venu chercher et sauver les perdus. Accomplissant quand même parfaitement la volonté de Dieu. Frères et sœurs, heureusement que le cœur de Dieu est que pardon. Que le cœur de Dieu, frères et sœurs, est rempli de compassion, qui déborde de compassion. Ouais. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, il a dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger les gens, il est venu pour sauver les gens. » Et on est encore dans cette période de grâce, dans cette période de grâce. Et ô combien ce sera triste pour nous, si nos enfants ne sont pas encore entrés dans ce temps de grâce. Combien nous serons tristés de voir le jour où Dieu va fermer cette porte de la grâce, comme il a fait avec l'arche de Noé. Fermer cette porte où personne ne pourrait plus avoir accès à la grâce de Dieu pour être sauvé. Ouais. Frères et sœurs, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de parler de Jésus. C'est le temps d'annoncer qu'il tend l'oreille aux désespérés. C'est le temps d'annoncer qu'il va encore guérir aujourd'hui. C'est le temps d'annoncer qu'il va encore sauver aujourd'hui. C'est le temps d'annoncer qu'il veut l'ajouter encore davantage des gens à son royaume. Et particulièrement vos enfants. Et vos enfants, frères et sœurs, ils ne doivent pas apparaître uniquement sur une petite liste de prières. Mais vous devez venir devant le trône de la grâce de Dieu et dire, « Seigneur, aie pitié de mon enfant qui a été élevé dans ton église, Seigneur, qui a été présenté, qui a fait l'école du dimanche, qui a participé au groupe de jeunes, et qui, Seigneur, est dans le monde. Aie pitié de mon enfant, intercédez pour lui. Aie pitié, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. » Il ne sait pas ce qu'il perd. Il ne sait pas ce qu'il attend s'il reste dans cette condition-là. Est-ce qu'on est capable de s'humilier à ce point-là, frères et sœurs? Aie pitié de mon fils. Aie pitié de ma fille. Car elle est perdue. Ce n'est pas de sortir la liste de prières et dire, Seigneur, voici la liste ce matin. Seigneur, je viens devant toi. Je suis fort occupé. Tiens, regarde, Seigneur, tu vois tout. Seigneur, prends ça en note, Seigneur. Je dois aller travailler. Ce n'est pas ce que Bartimée nous montre ce matin, hein? Aie pitié, Seigneur, je dois prendre du temps avec toi. C'est mon rendez-vous, le premier rendez-vous le matin, Seigneur, c'est avec toi. Parce que je sais que si je viens en m'humiliant, en te demandant, Seigneur, aie pitié de ton fils, aie pitié de ta servante, aie pitié de ton serviteur. Seigneur, tu fais une promesse dans le psaume 67, tu vas me bénir. Bartimée, il savait qu'il y aurait une bénédiction. Peut-être pas la guérison, peut-être pas au tout début. Que Jésus l'intercède. Mais il savait que quand il disait « Ayez pitié d'un pauvre aveugle », il savait qu'à un moment donné, il y a une bénédiction qui viendrait dans sa main, qui viendrait atterrir dans sa main. Il savait. Sinon, le pauvre aveugle, il ne traînerait pas le long du chemin tous les jours sans recevoir une bénédiction. Ça, c'est à part de ce qu'on pouvait lui voler, parce que quand il envoyait quelqu'un lui chercher de la nourriture, il ne voyait pas toutes les pièces qu'on prenait dans sa main. Il ne savait pas combien les gens lui donnaient de l'argent. Bartimée, rappelez-vous, un aveugle, c'était considéré un petit peu moins qu'un chien à l'époque de Jésus. On n'a jamais vu un aveugle conduire un chien. C'est le chien qui conduit l'aveugle. L'aveugle était considéré un petit peu moins que le chien à l'époque de Bartimée. On ne dressait pas les chiens pour conduire les aveugles. On n'avait pas le temps pour faire ça, frère. Et le Seigneur, eh bien, aujourd'hui encore, il entend notre cri et il veut nous bénir. J'espère que c'est pour l'année qui vient, frères et sœurs, qu'on puisse crier à Dieu, s'humilier devant le Seigneur et de dire, Seigneur, aie pitié de ton Église. Aie pitié de ton Église qui fait des compromis avec ta parole. Aie pitié de ton Église qui a perdu de vue le sacré. Le sacré de ton Église. Et l'Église, je parle du corps de Christ. Frères et sœurs, vous n'êtes plus que des enfants. Vous n'êtes pas seulement des enfants de Dieu, vous êtes des saints en Jésus-Christ. Vous êtes des prêtres en Jésus-Christ. Vous êtes des héritiers du royaume. Seigneur, aie pitié de ton Église qui a perdu de vue toute cette notion du sacré. Et frères et sœurs, je peux vous assurer d'une chose, on s'humilie puis on crie à Dieu d'avoir compassion pour nous. On va recevoir de riches bénédictions en 2015. On va voir des âmes qui sont touchées. On va voir des gens qui sont aveuglés spirituellement par le péché. On va voir les écailles de leurs yeux tomber. On va voir Dieu faire des miracles, accomplir une nouvelle naissance à travers ses cœurs perdus. Et les voir pouvoir louer et adorer le Seigneur pour ce qu'il leur a fait et pour ce qu'il aura et pour ce qu'il est dans leur vie de tous les jours. Frères et sœurs, quand on crie « Seigneur, aie pitié de moi », on touche directement le cœur de Dieu. Directement. Directement. Et alors, il n'y a plus rien qui peut l'empêcher de vous écouter et de vous accorder sa miséricorde. Verset 47 ici. Il y a un autre point que nous ne devons pas négliger concernant il y a un autre point qu'on ne doit pas sortir. Je vais le lire d'abord, ça va aller mieux. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Frères et sœurs, le point qu'on ne doit pas négliger ici, c'est qu'il ne le fait pas avec n'importe quel nom. Ce mendiant va utiliser le nom de Jésus pour plaider sa cause. Il va utiliser le nom de Jésus pour plaider sa cause. Et frères et sœurs, y a-t-il quelque chose sur la terre ou dans le ciel qui soit plus puissant que le nom de Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas dit alors à ses apôtres, « Ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas des champions? Est-ce qu'on n'est pas des champions pour trouver toutes sortes d'excuses quand on prie et qu'on ne reçoit pas? Alors que Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. » On n'ose même pas se poser la question, « Pourquoi on ne reçoit pas? » Et frères et sœurs, quand on ne se pose pas la question pourquoi on ne reçoit pas, on fait Dieu menteur, parce que Jésus nous dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. » Mais c'est tout ce que vous demanderez en mon nom qui glorifiera le Père. Ce n'est pas d'avoir une Porsche à 250 000, ça ne glorifie pas Dieu, ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom qui glorifiera le Père, je vous le donnerai. Et la parole nous dit que quand on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal. Quand on ne reçoit pas, c'est parce qu'il y a un péché qui fait ombrage entre nous et le ciel. Et Jésus a de la difficulté. Il y a un courant qui ne passe pas. Tantôt, comme l'interférence qu'il y avait, là, tantôt, lorsqu'on a chanté, des bzzz. Mais frères et sœurs, on est des champions pour trouver des excuses. Ah oui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom qui glorifie le Père, dit Jésus, vous le recevrez. Seigneur, comme le Père qui a vu son Fils, qui est venu devant Jésus, qui est venu voir Jésus parce que son Fils était possédé, Seigneur, et qui a crié, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. En tant qu'enfant de Dieu, on pourrait aussi crier, faire cette prière. Seigneur, aie pitié de moi et viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Seigneur, chers amis, si vous connaissez le nom de Jésus, plaidez devant le trône de la grâce. Si vous savez ce qu'il représente, si vous savez ce qu'il est venu faire et ce qu'il peut faire dans votre vie, si vous savez qui il est, si vous connaissez sa puissance, si vous connaissez ses promesses, alors suppliez-le. Faites entendre votre voix. Dites-lui, fils de David, Jésus, si tu es tout ce que tu dis, devienne réalité dans ma vie. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Si tu es tout ce que tu dis, je t'en supplie. Si tu es le Sauveur, sauve-moi, si ce n'est pas le cas ici ce matin. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Si tu effaces les péchés, efface les miens. Si tu ouvres l'intelligence, Seigneur, ouvre mon intelligence, aie pitié de moi. Frères et sœurs, promesse de la parole, il y a une bénédiction qui va tomber. Verset 49, il est écrit que Jésus s'arrêta. Et frères et sœurs, lorsque nous parlons de cette façon, le Seigneur s'arrête en tout temps pour nous écouter, pour répondre à notre prière. Jésus est venu chercher les brebis perdues et lorsque ses yeux tombent sur une de ces brebis qui est blessée et mal en point, il s'apprête pour s'occuper d'elle. Et la dernière fois, j'ai fait une erreur, je dois vous demander pardon, parce que je vous ai dit qu'un berger en Israël, quand il y avait une brebis qui était rebelle, quand il y a une brebis qui s'échappait du troupeau, quand il y avait une brebis un peu folle qui voulait partir, à droite et à gauche, qui désobéissait à la voix du berger, je vous ai dit qu'on lui cassait les quatre pattes. Hein? On ne lui casse pas les quatre pattes, en fait. On y en casse une, on y en cassait deux. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'est que le berger cassait les pattes, pas pour la faire s'ouvrir. Mais non, elle ne comprenait pas. Et il ne voulait pas qu'elle se perde parce qu'il savait qu'il y avait des loups qui attendaient. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui arrangeait les pattes comme il faut. Et pour ne plus qu'à s'éloigner, après y avoir fait les pattes, il savait qu'elle ne pouvait plus courir, il la prenait. Il la mettait sur son épaule. Et pendant qu'il se promenait avec son troupeau toute la journée, la brebis la plus proche de lui, c'était la brebis qui le transportait autour de sur ses épaules. Pour qu'elle apprenne à rester près de son berger. Et frères et sœurs, c'est pas pour rien que Jésus prend l'image du berger pour comparer ses enfants. Vous savez, la brebis, c'est à peu près une des seules créatures au monde qui n'a aucun moyen de défense face à un prédateur. La seule chose qu'elle a, je ne suis pas convaincu que c'est Dieu qui l'a donné. Lorsqu'elle voit un loup arriver, vous savez ce qu'elle fait? Elle se crampe et elle fait « bé, bé ». C'est tout ce qu'elle fait. Hein? Elle ne pense même pas sauver la brebis. Et le Seigneur, il nous connaît bien. Il nous a dit qu'il y a des loups qui sont là pour nous dévorer. Et les loups, ils ne font pas de quartier. Mais il nous compare à des brebis par rapport à ce qui nous attend dans le monde. Et il nous dit « Restez regroupés ensemble, vous êtes un troupeau. » Ma famille, vous êtes l'Église, vous êtes un troupeau. N'abandonnez pas votre Église. Restez près du troupeau. Si vous abandonnez l'Église, vous allez vous retrouver seul comme une brebis et vous allez être sans défense. Mais ensemble, vous représentez une force. On n'a jamais vu des loups attaquer un troupeau. Les loups, ils se promenaient sur le côté. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient. Un va-et-vient. Pour affoler une brebis, une assez folle pour penser qu'en sauvant toute seule, elle aurait la vie. Et là, vous avez 7-8 loups qui attendaient un peu plus loin pour l'égorger et pour la dévorer. Et frères et sœurs, il y a combien de gens depuis des années, des siècles que l'Église existe, qui ont osé sortir du troupeau, quitter l'Église, ne plus y revenir, et qui ont été dévorés par l'esprit du monde qui règne à l'extérieur. Et ils sont tellement abîmés, tellement blessés par tout ce qu'ils ont vécu dans le monde, qui sont incapables de monter les marches d'une église pour rentrer à l'intérieur. Frères et sœurs, notre force, c'est ensemble, en se rappelant que le berger du troupeau, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est écrit que Jésus s'arrêta. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux pharisiens qui le reprenaient parce qu'il prenait un repas dans la maison de Matthieu et qu'il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise compagnie qui étaient venus prendre place à la table avec lui. Et ses disciples, qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur, ce sont les malades qui en ont besoin. Et l'objet de sa mission demeure le même, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Une occasion se présente ici, verset 47. Une occasion se présente à lui pour ouvrir les yeux d'un aveugle, pour accomplir un miracle. Il va s'arrêter afin d'illuminer la vie de ce mendiant. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Frères et sœurs, quelle parole réconfortante! Quelle parole réconfortante pour cet aveugle d'entendre ces paroles, « Prends courage. » Frères et sœurs, s'il faut qu'il prenne courage, c'est parce qu'il avait perdu courage. Jésus le connaissait et à travers la foule, à travers les gens de la foule, il va lui dire, « Prends courage. » Cet homme, il avait perdu courage, chers et sœurs. Il avait perdu non seulement courage, il avait perdu la vue. Il était méprisé de tous. Et voilà qu'il entend de la bouche même de ceux qui l'avaient méprisé. Prends courage, prends courage. Il t'appelle. Prends courage, lève-toi, lève-toi, il t'appelle. Toi qui es dans cette salle ce matin, as-tu perdu courage? Es-tu découragé? Parce que tu ne sais pas si tu vas retrouver du travail parce que tu as perdu ton travail en 2014. Alors je te dis ceci ce matin, prends courage, fortifie-toi, parce que le Seigneur Jésus t'appelle à quelque chose de meilleur, car il dit que celui qui l'honore, Dieu l'honore. Et le chrétien qui marche dans l'obéissance à la parole n'est jamais, jamais perdant avec le Seigneur. Jamais. C'est important de se rappeler de ce passage dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. « Celui qui m'honore, dit l'Éternel, je l'honore. » Mais il rajoute tout de suite après, « Celui qui me méprise, je le méprise, dit l'Éternel. » As-tu perdu courage? Es-tu découragé ce matin parce que tu es un enfant de Dieu et que tu luttes encore et toujours avec le même péché? Prends courage, fortifie-toi, parce que le Seigneur Jésus a plongé ton regard dans sa parole. La délivrance, elle est dans la parole. La délivrance est dans celui qui est la parole, frères et sœurs. Si on ne lit pas notre parole, on lutte avec notre propre chair et on tombe à chaque fois. Jésus dit dans Jean chapitre 8, « Je vous ai libéré pour que vous soyez vraiment libres. » Frères et sœurs, est-ce que vous êtes découragés ce matin? Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui sont découragés, qui ont perdu courage parce que Dieu les reprend? Eh bien, je vous dis ce matin, prenez courage. Prenez courage. Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Prends courage. Tu vis dans le péché. Tu fais défaut à la parole de Dieu. Dieu te châtie, Dieu te reprend. Prends courage, ça signifie que tu es un enfant de Dieu. C'est quand on baigne dans le péché que Dieu ne nous reprend pas qu'on doit se poser des questions. Mais la parole nous dit, prends courage si Dieu te reprend, parce que Dieu aime, celui qui aime bien, châtie bien. Les parents qui n'aiment pas leurs enfants, là, vous savez ce qu'ils en font? Les enfants rois. Ouais. Le docteur Spock, c'est aux États-Unis, qui a sorti ça, hein, cette théorie-là de l'enfant roi, il y a 40 ans. Hein. Ouais. Il y a eu un seul enfant et son enfant s'est suicidé aussi quand il est arrivé à l'âge adulte. Hein. Ne jamais dire non à un enfant pour ne pas le traumatiser. Ne jamais rien reprocher à un enfant pour ne pas le traumatiser. Son fils est suicidé en 25 et 30 ans. Ouais. Quand on aime nos enfants, on le sait, on est parents, on les reprend, on les corrige. Pas pour leur faire du mal, pas pour les blesser, mais on sait que c'est pour leur bien. Et Dieu, frères et sœurs, quand on est son enfant, Dieu ne prend pas plaisir à nous châtier, mais il nous châtie, et c'est pour notre bien. Et il nous reprend parce qu'il est notre Père céleste. Eh bien, si c'est ton cas ce matin, prends courage. Prends courage, encourage-toi, que ça puisse te réconforter, parce que ça confirme que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ouais. As-tu perdu courage? Es-tu découragé lorsque tu vois dans quelle direction se dirige le monde? Alors, encore une fois, je te dis ce matin, prends courage et fortifie-toi. Jésus te rappelle qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde, la puissance que le monde exerçait sur ta vie. Il a vaincu la puissance que le diable exerçait dans ta vie. Il a vaincu la puissance que le péché exerçait dans ta vie. Prends courage ce matin. Ne te décourage pas. Encourage-toi. Et le « prends courage », ça veut dire « fortifie-toi ce matin ». Fortifie-toi, tu n'es pas seul. Jésus est à tes côtés. Il est non seulement à tes côtés, il est en toi par son Saint-Esprit. Prends courage ce matin. Dieu ne nous a pas promis une vie facile, loin de là. Loin de là. As-tu perdu courage? Es-tu découragé? Parce que tu rends témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie et que les gens te rejettent et te méprisent. Prends courage, le Seigneur Jésus t'appelle à te souvenir que tu as la paix en lui et qu'il a vaincu le monde. As-tu perdu courage? Es-tu découragé ce matin? Parce que tu te sens seul. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, 20, « Sache-le, prends courage, fortifie-toi. » Parce que je serai tous les jours avec toi et ça jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, quand on se sent seul dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas Jésus qui nous fait défaut, c'est nous qui avons fait défaut à Jésus. Ce n'est pas lui qui s'est éloigné de nous, c'est nous qui sommes éloignés de lui. Frères et sœurs, es-tu découragé ce matin? As-tu perdu courage? Plonge ton regard dans la parole de Dieu et tu verras comment Dieu va te fortifier, comment Dieu va te redonner ce courage. Parce qu'il y a une promesse pour chaque situation que nous vivons et elle se trouve dans la parole de Dieu. Une promesse pour nous réconforter, une promesse pour nous consoler, une promesse pour nous encourager, une promesse pour nous remonter, une promesse pour nous relever. Amen. Quelle sera la réaction de Bartimée en entendant cette merveilleuse parole? Hey, frères et sœurs, j'ai lu ce passage-là à peu près une vingtaine de fois, et c'est ce matin, très tôt, que j'ai réalisé que le Seigneur m'a révélé quelque chose et je dois vous le partager ce matin. Regardez le verset 50, ça vaut la peine. Verset 50. Quelle sera la réaction de Bartimée lorsque le Seigneur va lui dire « Prends courage, à travers la foule, prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Qu'est-ce qu'il va faire? L'aveugle jette son manteau et se levant, son manteau qui lui servait probablement de maison, son manteau qui le protégeait du soleil, son manteau qui le protégeait de la pluie. C'est un sans-abri, hein, ce mendiant aveugle-là. Hein? Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide sociale à son époque. Hein? Il vit de ce que les gens lui donnent, de la pitié que les gens ont pour lui. Et il se lève et il lance son manteau. Mais regardez la suite. Frères et sœurs, avez-vous déjà vu un aveugle se lever d'un bond? J'en ai jamais vu dans la vie. Vous avez déjà vu un aveugle qui est assis se lever d'un bond? Déjà qu'il faut qu'il sache pour savoir s'il ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Déjà qu'il va à tantôt pour être sûr qu'il ne tombe pas à quelque part. C'est ça, il se lève d'un bond. Il entend la voix de Jésus. On lui dit, écoute, Jésus t'appelle. Le maître t'appelle. Il enlève son manteau. Il balance son manteau. Et le texte biblique nous dit, il se lève d'un bond. Extraordinaire. Hein? Frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus nous donne un appel dans notre vie, voilà un autre enseignement que l'aveugle Bartimée nous donne. On devrait se lever d'un bond. Parce que la grâce, elle est au bout de cet appel. Bartimée, il se lève d'un bond parce qu'il sait que la grâce, la guérison, elle est au bout. Elle est au bout de son chemin, frères et sœurs. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, quand Dieu t'appelle, il a une grâce, il a une bénédiction au bout de cet appel. Et Bartimée, il se lève d'un bond. Et frères et sœurs, combien on voit d'enfants de Dieu souvent qui sont appelés dans le ministère, qui sont appelés à œuvrer, à servir dans l'Église. Et qui sont tellement lents à se lever. Parce qu'ils ont perdu de vue que c'est une grâce que Dieu leur fait de servir dans l'Église. S'ils réalisaient qu'il y avait une bénédiction à chaque fois que Dieu les appelle pour servir dans l'Église, ils feraient comme cet aveugle, ils se lèveraient d'un bond. En louant, en remerciant le Seigneur d'avoir daigné jeter son regard sur son serviteur, sur son enfant, pour l'utiliser, pour le servir dans sa maison. Combien nous sommes lents à répondre à l'appel du Seigneur. Et heureusement que Bartimée n'a pas été lent à se lever, parce que Jésus aurait été déjà rendu très loin, frères et sœurs. Il n'aurait pas eu le temps d'entendre son cri. Frères et sœurs, d'un bond, Dieu vous appelle dans l'Église. Dieu ne vous appelle pas simplement à venir le dimanche, à vous asseoir sur une chaise, à écouter un message, à louer, à chanter. Dieu vous appelle à servir avec les moyens qu'il vous a donnés dans l'Église pour le bénéfice de sa grâce, pour que l'Église puisse progresser, pour que l'Église puisse avancer et surtout pour qu'on puisse bénéficier de vos dons. Paul dit dans Corinthiens que le don spirituel que nous avons reçu se manifeste après le baptême. Après le baptême. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut qu'on le confesse publiquement. Le Seigneur, il veut qu'on confesse qu'on lui appartient. Qu'on est né de nouveau, qu'une transformation dans notre vie, qu'il nous a donné un cœur nouveau, qu'on appartient plus au monde, mais qu'on appartient maintenant au royaume de Dieu. Et là, Paul dit que le don spirituel se manifeste. Et ce n'est pas nous qui allons découvrir le don spirituel. Ça me fait rire quand on fait passer des tests aux gens pour savoir quel don ils ont. C'est les membres de l'Église qui vont dire à l'autre quel don il a. C'est les membres de l'Église. Dieu, à travers son Saint-Esprit, va parler aux membres de l'Église et les gens vont voir quel don on a. Il y en a qui ont le don de libéralité, il y en a qui ont le don d'enseigner. Il y en a qui ont le don de louer, il y en a qui ont le don d'adorer, il y en a qui ont le don de servir. Mais c'est les membres de l'Église, Dieu parle à travers le corps de Christ pour confirmer le don spirituel qu'on a reçu. Les frères et sœurs ne se lèvent pas d'un bond pour servir le Seigneur. On sera ignorant du don que Dieu nous a donné. L'Église sera ignorante du don que vous avez reçu. Bel enseignement de Bartimée ici, qui n'était pas un enfant de Dieu, mais qui s'est levé d'un bond quand on lui a dit « Jésus t'appelle ». Il a tout balancé, hein? Il a tout laissé tomber, hein? Le petit peu qu'il gardait, hein? Le petit peu qu'il possédait, son manteau, peut-être des petits torchons qu'il avait à côté de lui, hein? Pour s'essuyer quand il transpirait trop au soleil. Il a tout laissé. Vous savez souvent ce qui nous empêche de se lever d'un bond, frères et sœurs? C'est qu'on a beaucoup trop de biens, beaucoup plus de biens que Bartimée en avait. Et on prend tellement de temps, ça nous prend tellement du temps de nous débarrasser, de penser qu'on doit se débarrasser de nos biens, que Jésus souvent va passer le service à quelqu'un d'autre. Bartimée avait son manteau, il avait sa carcasse, quelque chose autour de lui, autour de son manteau. Il a tout laissé tomber, tout a volé en éclats, parce que Jésus l'appelait. Frères et sœurs, quel prix sommes-nous à payer? Sommes-nous prêts à payer? Parce que Dieu, encore en Jésus-Christ, appelle son peuple à se lever ce matin. Appelle son peuple à se lever d'un bond pour pouvoir le servir, pour déverser sa grâce sur son peuple afin de le bénir. C'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs, encore ce matin. Imaginez l'espérance qui venait de naître dans le cœur de cet homme lorsqu'il a entendu « Jésus t'appelle ». Imaginez, frères et sœurs, j'imagine l'espérance qu'il peut avoir dans votre cœur, Seigneur, lorsque vous apprenez, imaginez, frères et sœurs, l'espérance qui peut naître dans votre cœur lorsque vous entendez ce matin que Jésus vous appelle à servir dans son Église. J'espère que ça fait naître quelque chose d'extraordinaire. Et par expérience, je peux vous dire une chose, là où vous pensez que Dieu vous appelle dans l'Église, c'est la seule place qui ne vous appelle pas. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est jeune chrétien, c'est là où on est fort, on a des capacités naturelles, qu'on se sent appelé. Mais Dieu n'a rien à cirer nos capacités naturelles, il nous a donné des dons spirituels. Je l'ai déjà dit ici depuis 15 ans, la seule chose que je ne voulais pas devenir, moi, c'était pasteur. Vous devriez voir toute la magouille que Dieu a pris. Tous les contours que Dieu a pris pour m'amener, dire c'est là, mais sinon tu n'auras pas de bénédiction de ma part. Moi, j'aimais bien les enfants, les camps d'évangélisation l'été, moi, c'était à ma place. Le Seigneur a dit, il est temps que tu passes à autre chose. Je t'ai appelé à autre chose. D'abord, la faculté de théologie, 4 ans. Et là, la faculté de théologie, on m'a placé dans une église pour m'entraîner. Et la première chose qu'on m'a donnée, je pensais qu'on m'enverrait prêcher en avant, hein, un étudiant de faculté de théologie. Ben non, on m'a envoyé à la pouponnière changer les couches des bébés. Et on m'a dit, si t'es pas capable de faire ça, t'es pas appelé à prêcher, toi. Ouais. Frères et sœurs, dans l'Église où vous pensez d'être appelé, c'est souvent dans nos capacités naturelles. Et Paul dit, qu'est-ce qu'il dit, Paul? C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je pense de ne pas être capable de travailler dans un ministère que Dieu va être capable de se glorifier en moi. Amen. On va essayer de terminer rapidement. Oui, oui. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Frères et sœurs, regardez, Marc chapitre 10, versets 35 à 38, pour ceux qui ont leur Bible. Regardez, ça faisait pas longtemps que deux autres personnes lui avaient demandé la même chose. Regardez ce qu'ils avaient demandé. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, verset 35, et lui dirent, 10, 35, et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Hey, faut avoir du culot, hein? Faut avoir du culot! Quand vous réfléchissez à ça, « Hey, Seigneur Jésus, on veut que tu fasses ce qu'on va te demander. » Pas « Seigneur, aie pitié de nous. » »« Seigneur Jésus, on veut que tu nous donnes ce qu'on va te demander. » Les disciples, ils avaient suivi pendant 3 ans. Ils n'avaient pas encore appris comment prier. Ils voyaient Jésus prier, mais ils n'avaient pas encore appris comment prier. Et là, il y a un aveugle, un mendiant qui va leur montrer comment on doit prier. Pas être le poing comme ça, brandi, la main levée. Et la main levée comme ça vers le ciel, ça veut dire, Seigneur, j'ai autorité de crier vers toi ce matin, d'avoir pitié de moi parce que mes mains sont pures, Seigneur. Ils ne sont pas saignés par le péché. Ils sont purs, mes mains, Seigneur. »
Les gens me calomnient, j'en ai rien à cirer. Les gens me disent, j'en ai rien à cirer. Seigneur, toi, tu vois dans les cœurs. Et mes mains sont pures devant toi, Seigneur. Vous voyez les fils de Zébédée, vous avez vu ce qu'ils ont demandé à Jésus? Hey, Jésus, occupe-toi pas des autres, hein? Tu veux me placer à ta droite, puis moi à ta gauche? Fais ce qu'on te demande, Jésus, hein? Regardez, il utilise les mêmes paroles que Bartimée, hein? Il leur dit aux deux fils de Zébédée, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ce n'est pas une grâce qu'ils voulaient avoir. Ils voulaient avoir que Dieu, ils voulaient que Jésus fasse leur quatre volontés. Et Jésus leur a très bien répondu, « Ça, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui décide. » C'est moi qui décide. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Bartimée savait, hein? Quel enseignement pour nous à Bartimée ce matin? Ouais. Que va répondre Bartimée lorsque Jésus lui dira, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni ou maître, répondit Bartimée, « Que je recouvre la vue. Fais que je voie de nouveau. Fais que je voie de nouveau. » Il est écrit dans Matthieu chapitre 20, verset 32, que Jésus toucha ses yeux, qu'il fut guéri. Il avait un double besoin, frères et sœurs. Il ne voyait pas. Et on ne peut pas l'accuser d'avoir vécu, d'avoir marché par la vue. Ce n'était pas une foi qui marchait par la vue. Il avait un double besoin, cet aveugle. Il portait deux fardeaux. Il était pauvre et ce n'était pas rien à son époque. Et deuxièmement, il était aveugle, ce qui est pire encore, frères et sœurs. Et frères et sœurs, il y a peut-être des gens qui sont en quête d'un double besoin ici ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle dont le besoin est double ce matin? Quelqu'un qui se sent doublement coupable et doublement impuissant? Quelqu'un qui s'est dit au plus profond de lui-même que si Jésus ne le sauve pas, il sera doublement condamné? Si vous vous sentez doublement perdu, Jésus s'arrêtera pour vous ce matin. Là où vous êtes, simplement une petite prière. Pas vous lever pour faire un spectacle, simplement là où vous êtes. « Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je suis perdu, perdu. Et Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi, Seigneur. Délivre-moi de mon péché, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux, Seigneur, afin que mon cœur, Seigneur, devienne un temple pour toi, pour t'accueillir, Seigneur, ce matin. » Afin que tu y trouves toute la place qui te revient, Seigneur Jésus. Pas que ce soit le parvis, mon cœur. Vous savez, c'était quoi le parvis? Les païens y allaient, hein? Les gens du monde pouvaient y toucher. Pas le parvis, Seigneur. Mon cœur, je veux qu'il n'y ait rien du monde qui habite en moi, Seigneur. Pas juste le lieu saint. Seigneur, je veux que mon cœur, ce soit un lieu très saint pour recevoir le Dieu trois fois saint. C'est votre prière ce matin. Dieu va répondre à votre prière. Dieu va avoir pitié de vous. Dieu va vous accorder sa bénédiction. Dieu va vous faire grâce ce matin. Et vous savez comment on appelle ça? Bartimée a dit, « Seigneur, fais que je voie de nouveau. » Et bien sûr, on appelle ça la nouvelle naissance. Et ce matin, vous pouvez crier dans votre prière, « Seigneur, fais que je naisse de nouveau. » Alors, je vais vous laisser là-dessus ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et ce n'est pas une question d'être capable de prier, de faire de belles prières. C'est le Seigneur ce qu'il veut, c'est qu'il regarde au cœur et non pas aux apparences. C'est le Seigneur ce qu'il veut, c'est qu'on puisse vraiment du plus profond de notre cœur, eh bien, le toucher à travers cette humilité qu'il nous demande d'avoir, de reconnaître ce qu'on est et qu'on dépend de lui du début jusqu'à la fin, que c'est par grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi et que ça ne vient pas de nous, mais que c'est un don que Dieu nous accorde. Amen. Je vous invite